Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Un amour pour sa profession, une passion pour l'humain qui remonte à la petite enfance et justement une carrière dédiée à la petite enfance aussi. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mina Oumlil, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Mina?
Alhamdulillah, wa shukrulillah.
Alhamdulillah, la Mina. Alors, quel plaisir de vous recevoir. Mina Oumlil, pédiatre engagée pour l'information des plus petits. Yek?
Oui, exactement. C'est le,
c'est
mon cheval de bataille d'Eban, oui.
Exactement. Alors, la Mina, combien d'années de carrière dans la pédiatrie?
Alors, c'est depuis 1988,
hein. Oui.
Je suis en train de faire le calcul, j'ai pas fait le calcul, ça fait 38 ans.
38 ans dans la pédiatrie.
Dans la pédiatrie, exact.
Oui. Alors, justement, vous faites pas mal de capsules aussi sur les réseaux sociaux, vous parlez aux parents. Vous avez démarré dans les années 80. La forme de communication a complètement changé et vous n'avez pas eu peur, justement, de vous engager sur les réseaux sociaux?
Non. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'avoir animé comme chroniqueuse sur une des chaînes nationales pendant 2 ou 3 ans, une chronique sur le Oumouma. Donc, je me suis familiarisée avec les plateaux d'enregistrement, avec le tournage, et je faisais presque du direct. Donc, j'étais à l'aise.
Oui.
Et tu sais, ça me rappelle que je dois remercier le professeur Abdelrahim Harouchi. Abdelrahim Harouchi nous a formés en tant qu'enseignant à la fac de médecine à comment communiquer en public, comment choisir le message, comment faire parvenir à l'étudiant le message le plus important dans un cours. Et donc ça fait partie maintenant de ces... C'est un savoir-faire que je n'avais pas, que j'ai acquis grâce à des formations, alhamdoulilah.
Alors, votre histoire avec la pédiatrie, elle a commencé comment?
Elle a commencé par un concours de circonstances. J'ai fait mon concours d'internat et je voulais faire de la pédopsychiatrie.
Ok.
Je n'ai pas trouvé de poste en pédopsychiatrie. Donc, je me suis dit, je vais faire la pédiatrie en attendant de faire de la pédopsychiatrie. Quand j'ai fait la pédiatrie, je me suis rendu compte, j'ai fait la différence entre l'adulte et l'enfant. Quand je faisais les stages en tant qu'étudiante en médecine dans les stages d'adultes, quand tu viens voir un adulte, tu dis, alors que quand j'ai fait ma première garde à l'hôpital d'enfants, l'enfant était venu déshydraté. Dès qu'il a été réhydraté, il souriait, il était bien. Je dis, ça, c'est la spécialité que je vais faire.
Oui.
Au moins, il y a de la reconnaissance. Tu sens que tu rends service, que l'enfant, il est sincère. Il est malade, il pleure, il n'est pas bien. Dès qu'il est bien, il sourit.
C'est vrai.
Et c'est ce sourire qui m'a accroché à cette spécialité. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de faire cette spécialité, qui est la spécialité la moins bien payée des spécialités. Hein.
C'est vrai.
Ah oui, nous faisons, tu sais, professeur, c'est une consultation à 300 dirhams. Nous n'avons pas d'échographie, nous n'avons pas des autres outils pour enrichir notre caisse. Donc, c'est une consultation, et consultation avec les parents, ça prend du temps.
C'est vrai.
C'est chronophage, les consultations de pédiatrie.
Ouais.
Ça n'a rien à voir avec un cardiologue, avec un ophtalmo. C'est la spécialité la moins bien payée. La moins payée par rapport aux autres spécialités.
Alors, vous avez également enseigné pendant longtemps? Vous continuez?
Oui, alors l'enseignement, ça fait... Alors, quand j'ai fait la médecine, je l'ai faite pour 2 objectifs. 1, soigner les pauvres, parce que c'était... Tu sais, les rêves du jeune, soigner les pauvres, parce que j'avais une famille qui était dans le bénévolat, dans l'amal khairi et tout. Et donc, pour moi, faire la médecine, c'est pas pour faire mon cabinet et faire de l'argent. C'est rendre service à la population qui est pauvre. Et 2, je voulais faire l'enseignement, enseigner la médecine. Et donc, c'était ça. Et je continue, alhamdoulilah, à rester conférencière au niveau national. Je suis invitée régulièrement par les associations de pédiatres de, sur le Maroc, à Tanger, à Fès, à Oujda, à Agadir, Marrakech, régulièrement à Casa aussi, pour faire des conférences sur des thématiques soit médicales pures, soit sur le parcours, le nouveau parcours de ma vie, sur la parentalité.
Alors, nouveau parcours, c'est-à-dire ?
Alors moi, quand je me suis... à travers ma profession libérale, tu sais, quand on est à l'hôpital d'enfants, on est en hospitalier, on voit les enfants malades. Donc, on est là dans le mode apprendre aux parents à continuer le traitement en externe, à surveiller les signes de gravité, à continuer à revenir aux consultations, etc. Donc, ça, c'est un mode. Quand je suis venue au privé, j'ai commencé à observer les parents. Et j'ai vu que les parents, depuis maintenant, depuis que je me suis installée en 2004, ça me fait à peu près 22 ans, j'ai vu que la famille a changé, les couples ont changé. Les parents sont devenus les esclaves de leurs enfants. Un enfant, quand il vient, c'est l'enfant roi. Alors, on essaye, bravo, tu as ouvert la bouche, tu es le champion, tu es le champion. Donc, on est dans un mode qui n'est plus la parentalité logique, qui est qu'on encourage l'enfant, mais en lui attribuant ce qu'il mérite. Et non pas ce qu'il ne mérite pas. Et donc, je me suis dit, attention. Et de l'autre côté, j'ai vu que dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlent de l'enfant, parlent de l'éducation, parlent de la santé, et ce ne sont pas des spécialistes. Et donc, je me suis rendu compte qu'il faut qu'on parle de la parentalité. Et là, mon premier cheval de bataille, c'est les pédiatres. Et donc, j'ai commencé à faire des conférences. Le rôle du pédiatre dans la guidance des parents, quelle est, à travers la périculture, quels sont les conseils qu'on doit donner aux parents, etc. Et donc ça, je l'ai fait à Tanger, je l'ai fait à Fès, je vais le faire à Marrakech cette année, et certainement à Agadir après Oujda, pour pouvoir partager ce que j'ai appris à travers des formations, parce que moi j'ai fait... J'ai fait un diplôme sur la psychologie et psychopathologie du bébé à l'université, à la fac de médecine. J'étais sur les mêmes bancs, j'avais ma fille qui était en même temps que moi.
Wow.
Et la prof qui nous qui supervisait le DU, c'était mon ancienne élève.
Et incroyable.
Donc, je l'ai fait alors que j'avais presque 60 ans. J'ai repris les bancs, j'ai appris, je me suis dit, je dois comprendre la psychologie du bébé. Comment un bébé, on doit se comporter avec lui, comment il raisonne, qu'est-ce que disent les psychanalystes, les pédopsychiatres, les psychologues, c'est quoi un bébé? Alors, je me suis rendu compte que ce que j'ai vu, ce que j'ai mis dans ma tête comme explication, c'était, il y avait déjà des gens qui ont travaillé ça dans des laboratoires de recherche, et donc j'ai fait des corrections et des précisions sur des choses qui avaient un petit flou pour moi. Et ça, c'était...
Alors, cette expérience, de revenir sur les bancs de l'université et en même temps, finalement, c'est revenir aux premiers amours. C'est que vous vouliez faire pédopsychiatrie, en fait.
Exact. C'était ça. C'était justement, d'abord, c'est une forme de compensation. Le psychologue qui n'a pas pu être psychiatre, donc il est devenu psychologue.
Ouais.
D'abord, moi, je suis dans la guidance parentale. Ce mot, pour moi, il est très important. Et d'ailleurs, j'ai été formatrice à travers le ministère de la Famille, parmi les formatrices en parentalité positive au niveau national. Et je me rappelle que ce projet parentalité positive, je l'avais préparé étant responsable et présidente de l'association HEDN. Je suis montée au ministère et je leur ai demandé de financer ce projet parce qu'on voulait faire des capsules, on voulait faire tout un truc pour la parentalité positive. À ce moment-là, ils n'avaient pas de budget. Et j'étais agréablement surprise, 3 ans plus tard, en m'invitant à participer à la formation sponsorisé et pris en charge par l'UNICEF sur la parentalité positive. Ils ont formé plusieurs associations au niveau national. Donc ça, moi, pour moi, le fait que le ministère a tenu compte d'une association qui est venue de CASA plaider pour qu'il y ait un programme national politiquement accepté, Je trouvais que c'est extraordinaire.
Oui. Alors, cette décision, justement, c'est parce que votre fille intégrait l'université et que vous vous êtes dit pourquoi pas. Comment c'était en fait? Et comment on se sent quand on revient sur les bancs de l'université à côté de sa fille, à passer les mêmes examens et que les formateurs, c'est vos anciens élèves?
Moi, j'avais aucun complexe. D'abord, c'est moi qui ai invité ma fille à venir à ce DU. Elle faisait la psychologie. Et j'ai demandé au comité qui organisait le DU, je leur ai dit, est-ce que les psychologues peuvent assister? Ils m'ont dit oui. Est-ce que quelle année vous acceptez? Ils m'ont dit telle année. Et donc, c'est ma fille qui a intégré notre groupe.
Et pas l'inverse.
Et moi, c'est pas l'inverse. Et moi, j'avais aucun complexe. Parce qu'auparavant, j'étais sur les bancs au niveau de l'association, dans des formations justement financées par le ministère de la Famille sur la parentalité. Donc, c'était pour moi, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui formait sur la parentalité, moi, j'adhérais. Et dès qu'il y a eu l'annonce du DU, je me suis présentée, je me suis dit, est-ce que je peux m'inscrire? Est-ce que j'ai le droit? Il m'a dit, mais bien sûr que vous avez le droit, vous êtes médecin d'abord, vous êtes enseignante ensuite, et tout le monde y a droit, il faut juste, on a des nombres de places limitées. Et j'étais parmi les premiers à m'inscrire. Et voilà.
Justement, pas de complexe avec sa fille, avec ses anciennes étudiantes?
Non. Ma fille a eu une meilleure note que moi à l'examen. Par contre, je lui dis, comment tu as fait pour avoir une meilleure note que moi?
Alors,
elle avait un point de plus que moi, mais je la comprends. Elle faisait de la psychologie, donc elle avait beaucoup de concepts qu'elle maîtrisait mieux que moi.
Oui. Alors justement, cet engagement que vous continuez à avoir, en fait, et vous l'avez dit, passer 60 ans, revenir sur les bancs de la fac, ça vous a appris quoi sur vous en tant que femme, avant tout?
Alors, en tant que femme, pour moi, c'est vouloir ce qu'on a, moi, ce que je le mets sous le label de baraka fil waqt. Tu sais, quand on est femme, on a toujours plusieurs responsabilités sous une même casquette. Je suis femme, je suis mère de famille, je suis épouse, je suis médecin, je suis dans l'associatif. Donc, j'ai plusieurs tâches à faire en même temps. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut se dire, je suis capable. Quand on dit je suis capable, et on te dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide, c'est tout le baraka fil waqt. Ce mot baraka fil waqt, c'est un concept que peu de gens connaissent. Parce que les gens, quand ils me disent, moi, je passe une demi-journée à l'association, voire même deux demi-journées à l'association. Les journées dans mon cabinet, je passe même. J'ai une fois par mois la revue marocaine des maladies de l'enfant, donc je suis membre fondatrice de la revue marocaine des maladies de l'enfant, qui est une revue indexée à l'international. On est à 26 ans au plus de publications, donc c'est une casquette. Je fais partie de la fondation d'aide à l'hôpital d'enfants, je fais une réunion une fois par mois, donc la semaine, tu as une réunion pour l'association, une réunion pour la fondation, une réunion pour la revue, etc. Donc, et j'arrive à faire tout ça bifadlillah subhanahu wa ta'ala et baraka fil waqt. Moins tu donnes, moins tu as le baraka dans ce que tu fais. Et c'est valable pour l'argent, c'est valable pour le temps, c'est valable pour le savoir. Plus tu partages ton savoir, plus tu vas avoir de savoir. Et ça, c'est un concept que peu de gens
Vous l'avez découvert comment, ce concept, Lamina?
Je l'ai découvert dans l'associatif. Dans l'associatif, quand je restais tard, les gens me disaient ta famille, tes enfants et tout. J'aurais dit Allah qui soule dans ma famille. Et quand tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu, et que tu disais, frère, tu fais vraiment ça pour les autres, Allah, il te guide, mais il te guide uniquement. Il te permet d'avoir des personnes à ton service. Moi, j'avais des personnes à mon service, chez moi à la maison, qui étaient comme les deuxièmes mamans de mes enfants. Donc, j'avais toujours quelqu'un qui me soutenait, qui m'aidait pour certaines tâches et qui me permettait de me libérer. Et de l'autre côté, j'avais mes enfants qui ont compris que c'est important ce que je faisais. Et donc, quand je faisais plusieurs choses, alhamdoulilah, j'arrive à m'en sortir. Là, j'ai compris que Allah dag al-baraka. d'Albaraka. Et donc, j'ai élargi mon champ de travail. Et en élargissant mon champ de travail, le temps, alhamdoulilah, mon cabinet n'a pas souffert, ma famille n'a pas souffert. Donc,
Cet amour pour le, cette passion, cet amour pour les gens, pour l'associatif, vous y êtes tombé comment?
Ça, c'est le milieu familial. Ça, c'est ma mère, la Hama, et mon père. Mon père, c'est un souci de Sousse, la région de Sousse, et ma mère, c'est une Doukalia. Et mon père était une personne qui avait un concept. Les vacances, nos vacances scolaires, quand on était gosse avant l'âge de 12 ans, on faisait un été, on le passait dans la campagne de Doukela, Bédia Doukela, et l'année d'après, on le passait à la montagne de Sousse. Et ensuite, quand mon père prenait son congé, il nous faisait voyager soit à travers le Maroc, soit on partait à l'étranger en Espagne. Mais dès que les voyages au niveau, quand on s'est installé plusieurs semaines, à la campagne ou à la montagne, on voyait les besoins, on voyait la misère de certaines personnes. Et je voyais ma mère, comment elle se comportait avec les gens de la campagne, comment elle les recevait. Elle les recevait même chez nous. Après, notre maison, c'était une maison qui a celui qui est malade, qui vient, moi je parle des années 60, 70, hein.
Oui.
Les gens, quand ils étaient malades, ils venaient à Casablanca voir les médecins. Ou bien ils avaient des problèmes au niveau du tribunal, c'est à Casablanca, il n'y avait pas des tribunaux régionaux. Et donc, quand ils venaient à Casa, ils venaient chez ma mère, ils s'installaient. Ils ne s'installaient pas pour une journée, pour deux, plusieurs jours. Et quand ils rentraient, par exemple, aux toilettes, il y en a qui faisaient pipi au sol, ils ne faisaient pas dans la cuvette, on râlait à maman, quand moi j'ai vu la campagne, quand moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de toilettes, quand j'ai vu comment ça se passe, j'ai compris. Et c'est des gens qui venaient et ils étaient nourris, blanchis pendant des semaines. Elle partait. J'ai vu comment se comportait ma mère avec ces gens. Et mon père, de l'autre côté, la même chose. J'ai vu comment un jour, mon père, quand quelqu'un de malade, la voiture ne pouvait pas venir pour le prendre, qu'il y avait juste un tronçon de 200 mètres où il y avait de la grosse rocaille, j'aime les ouvriers, ils ont cassé, ils ont pu relier toute une partie, toutes deux régions, ils étaient obligés de faire tout un détour de plusieurs kilomètres pour venir chez eux. Donc j'ai vu ça, moi. Et ça c'est une... Je pense que quand on est enfant, on ne peut devenir un acteur associatif que lorsqu'on a vu faire devant nous ces choses. Le Qudwa, c'était ma mère et mon père.
C'est exactement ça. Le Qudwa, c'est ce qu'on appelle le leadership.
Leadership, exactement. Et d'ailleurs, moi, je pense que un jour, je vais écrire mon enfance. L'enfance que j'ai vécue, c'est une enfance vraiment belle et rose. C'est ce que je regrette pour les couples, les nouveaux couples. C'est pour ça que la parentalité est revenue au devant à la fin de ma carrière. Parce que je ne comprends pas qu'une maman comme la mienne, mon père, qui étaient des analphabètes, qui n'avaient ni accès aux réseaux sociaux, ni à des lectures, et qui me respectaient en tant qu'enfant. J'avais un niveau d'estime de moi-même excellent. Jamais je n'étais devant quelqu'un qui était plus fort que moi, supérieur à moi. Et je me suis tue parce que j'avais pas le droit de parler. Chaque fois que je me sentais lésée, d'loma, je parlais, je tapais sur la table pour mon droit et dans le respect. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est des parents qui respectent un enfant et qui lui apprennent à respecter les autres et à être humble et avoir l'humilité, parce qu'il parlait à des ouvriers. Nous, on mangeait la casserole, la marmite, Diane, la scène, la cloufette, c'est-à-dire que c'est des ouvriers, les bonnes, tout le monde. Et on n'avait pas donc le respect des autres. Et ça, l'éducation qui fait le leadership. Et je me suis rendu compte après des années, une anecdote, chaque fois que j'étais dans un groupe, c'est moi qui gérais le groupe. Je ne me suis pas rendu compte. On a de la formation sur le leadership. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je prenais l'initiative de gérer un groupe, c'est pas un hack-hack. C'est parce que j'ai appris qu'il faut le faire. qu'il faut que quelqu'un le fasse. Personne ne me concurrençait, donc je prenais la...
Quelqu'un devait être leader, en fait.
Alors, un chauffeur d'abord, un taxi. Bon, alors je vais comment? Et je faisais, j'organisais, ouais. Quand j'étais étudiante, j'organisais les pots de fin de stage. C'est moi qui organisais, qui allais commander. C'est moi qui organisais les voyages quand on voulait voyager. C'est moi qui, quand on est dans un congrès quelque part, qui organise le tour touristique. C'est moi qui appelle, qui organise. Je me suis rendu compte après que j'ai vu mes parents faire ça. C'est pour ça que je le fais.
Ouais. Alors, c'est vous avez dit une chose...
Vous avez dit une chose importante.
Vous avez dit, en fait, aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui m'étonnent par rapport à ça, dans leur comportement. Oui, dans quel sens?
Ils n'ont pas de respect pour l'enfant.
Pourtant, vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est l'enfant roi. Est-ce que c'est un manque de respect que...
L'enfant roi n'est pas une forme de respect.
OK, allez-y.
L'enfant roi, c'est une forme d'esclavagisme des parents vis-à-vis de l'enfant.
Elamina, est-ce que vous êtes grand-mère ou pas encore?
Mais les enfants sont mariés. J'attends avec cet instant. Mais je suis la grand-mère de beaucoup d'enfants. T'inquiète pas.
Est-ce que vous allez, entre guillemets, intervenir? Est-ce que vous serez une interventionniste dans l'éducation de vos petits-enfants, dans le rapport de vos enfants à leurs propres enfants? Ou bien vous allez pouvoir... malgré tout ce que vous faites aujourd'hui, donc pédiatre, dans l'associatif, à donner des conférences sur la parentalité, etc., vous allez rester à l'écart et attendre qu'on vous demande votre avis.
Alors moi, je fais confiance à mes enfants parce qu'ils m'ont vu faire. Ils savent que leurs enfants ont besoin surtout en premier d'amour et d'affection. Donc je suis en train de préparer une formation pour les grands-parents. Les grands-parents doivent être source d'amour et d'affection, au moins chaud les petits-enfants. Je pense, et aux amis, j'espère ne pas me tromper, que mes petits-enfants, je serai là pour leur donner l'amour quand ils seront... ils ont le courage de me faire des petits-enfants.
On en reparle, exactement. Lelamina Oumlil, quel plaisir d'échanger avec vous. Je vous laisse repartir à vos petits patients. Et je vous souhaite une belle journée. Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, Yasmine. Et un grand merci à tous ceux qui vont nous écouter et qui, j'espère... s'inspirer de ce qu'on a dit pour se remettre en question.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.